Chapitre 31. De tous ceux dont l'inquiétude avait, pendant cette longue nuit, éloigné le sommeil et torturé l'esprit, Mr. Carson avait encore été le plus agité. Depuis le meurtre de son fils, il n'avait plus de repos, et les pensées qui occupaient ses veilles le poursuivaient jusque dans les heures où, accablé de fatigue, il succombait à l'engourdissement qui s'emparait de son corps. Ainsi que Mary et Job, il ne s'était pas couché de la nuit, et l'avait passé à se demander si toutes les mesures étaient bien prises pour assurer la condamnation de Jem. Il regrettait presque la précipitation qu'il avait mise à le poursuivre, dans la crainte qu'on eût été forcé de négliger quelques points importants, et cependant, il sentait qu'il n'y aurait pour lui de tranquillité sur la terre qu'après avoir obtenu vengeance du meurtrier de son fils. C'était le mot « justice » qu'il employait en parlant, et qui, dans sa pensée, qualifiait sa conduite. Et dans son impatience d'atteindre ce but équitable, il courut au point du jour réveiller son avocat pour lui faire rechercher de nouvelles preuves et de nouveaux moyens de conviction. Puis, tirant sa montre, il compta les heures et les minutes qui le séparaient du moment où la cour entrerait en séance. Que lui faisaient les vivants, sa femme, ses trois filles, en comparaison du fils assassiné dont la dépouille attendait pour être rendue à la terre, que la mort du coupable eût vengé la victime. 9 heures sonnèrent. Chacun prit la place qui lui était assignée. Les juges, les jurés, l'organe de la loi, de la vindicte publique, les avocats, le prisonnier, les témoins, tous ceux qui s'intéressaient personnellement à cette affaire, et parmi lesquels on retrouvait le vieux fileur, Ben Sturgis le batelier, et jusqu'au petit Charley. Job, autant pour éviter les questions de Mistress Wilson que pour calmer sa propre inquiétude, était sorti de bonne heure afin de se procurer des nouvelles de Mary, et n'ayant pu y parvenir, il avait pensé qu'il valait mieux laisser à la pauvre mère l'illusion qu'il lui avait donnée que de la détromper avant que ce fût inévitable. Il ne rentra donc pas, et alla directement au palais, où Mistress Wilson, fatiguée mais tranquille, était déjà depuis quelque temps dans la salle des témoins. Comme il cherchait à se frayer un passage dans la foule et à se placer de manière à bien voir et bien entendre, le clerc de Mr. Bridgenorth lui remit une lettre en lui disant « C'est de notre client ». Job l'ouvrit d'une main tremblante. Il craignait que Jem, coupable, ne lui fît un aveu qui aurait détruit sa dernière espérance. « Cher ami, disait Jem, je vous remercie de tout mon cœur de la bonté que vous avez eue de m'envoyer un avocat, mais c'était inutile. Tous les gens de loi du monde ne pourraient rien pour ma cause. Je serais condamné probablement, et je ne m'en étonne pas. Si j'étais du jury, je déclarerais coupable prévenu, qui aurait contre lui les charges accablantes qu'on élève contre moi. Ne blâmez donc pas mes juges si le verdict me condamne. Mais ai-je besoin de vous dire que je suis complètement innocent du crime dont on m'accuse? Vous n'en doutez pas, je le sais. Si je n'avais cette conviction, je ne vous adresserais pas cette lettre qui contient mes dernières volontés. Job Legh, je vous confie ma mère, prenez soin d'elle. Non pas sous le rapport de l'argent, elle a tout ce qu'il lui faut pour vivre, ainsi que ma tante Alice. Mais vous la laisserez vous parler de moi, et vous lui montrerez que vous me croyez innocent. Elle ne me survivra pas longtemps. Soyez bon pour elle, Job, en mémoire de moi qui vais mourir. Et si parfois son humeur vous irrite et vous fâche, rappelez-vous tout ce qu'elle aura souffert, pauvre femme. Elle ne m'accuse pas et ne doutera jamais de moi. Que Dieu la bénisse et la protège. Il est une autre personne, mon vieil ami, que je crains d'avoir aimée trop vivement, et pourtant cet amour a fait le bonheur de ma vie. Elle pense que j'ai tué son amant, que c'est moi qui suis la cause de sa douleur, et, chose bien dure, il faut même qu'elle le croie. Cela vaudra mieux pour elle. Mais un jour, lorsque viendra le moment où vous serez prêt de mourir, car vous êtes fort et vigoureux, dites-lui que je vous ai solennellement affirmé mon innocence. Je ne peux pas supporter l'idée de sa haine, qu'elle emporterait dans la tombe. Oh, je ne veux pas qu'elle meure en maudissant mon nom. Je souffrirais trop dans l'autre monde si elle devait s'y détourner de moi, comme du meurtrier de son amant, et je ne peux pas songer à l'horreur que je lui inspire maintenant. Ainsi donc, adieu, Job, soyez béni. Signé, celui qui ne peut plus vous servir, James Wilson. » Job poussa un profond soupir, replia sa lettre, l'enveloppa soigneusement d'un morceau de vieux journal, et après l'avoir placé dans la poche de son gilet, il retourna vers la salle des témoins. Par la porte entr'ouverte, il aperçut Mary, qui, les coudes appuyés sur une table, se cachait la figure de ses mains et paraissait accablée de son désespoir. Auprès d'elle sanglotait Mistress Wilson, dont les gémissements disaient assez qu'elle avait perdu toute illusion. Job revint tristement dans la salle des assises, sans avoir été vu des deux femmes. La cour y était en séance. Le greffier finissait la lecture de l'acte d'accusation. La question d'usage était adressée au prévenu.
Que dites-vous, accusé? Êtes-vous coupable ou non?
Bien qu'on s'attendît à la réponse qui allait être faite et qui ne variait jamais, un silence solennel régna dans l'assemblée, même parmi ceux que l'habitude de ces sortes d'affaires avait blasé complètement en matière criminelle. Jem, debout, les lèvres serrées, les yeux fixés sur le juge, fut un instant sans répondre. Il revoyait son enfance, son père dont il était l'orgueil, sa douce compagne Mary, sa bien-aimée, aujourd'hui sans désespoir, mais encore ses amours. Puis sa mère, qui allait rester sans enfant et qui bientôt rejoindrait ceux qui l'attendaient au ciel. Sa mère, qui ne devait pas un instant douter de son innocence, et se rappelant tout à coup la question qui lui était faite, il répondit d'une voix ferme.
« Non coupable, milord !»
Les circonstances dans lesquelles le meurtre avait été commis, les soupçons qu'on élevait contre Jem étaient trop connus de la plupart des auditeurs pour qu'on écoutât le réquisitoire que l'avocat du plaignant déclamait au milieu des conversations particulières.
« C'est Mr. Clarkson, le père de la victime, qui est là-bas, derrière Sergeant Wilkinson. »« Quel beau vieillard! Quelle figure noble et sévère! Ne vous rappelle-t-elle pas, dans sa beauté vraiment classique, le buste de Jupiter ?»« C'est l'accusé que je regarde. Les criminels m'ont toujours vivement intéressé par l'étude qu'ils m'ont offerte. Je cherche dans ces traits qu'ils partagent avec le commun des mortels à retrouver l'indice des crimes qui en font des êtres à part et les mettent au ban de l'humanité. J'ai vu bien des scélérats dans ma vie, mais j'en ai peu rencontré qui portassent le signe de Caïn aussi vivement que celui qui est à la barre. Il est vrai que je ne me donne pas pour habile physionomiste, mais je ne trouve pas du tout que le pauvre diable ait une mauvaise figure, au contraire. Son visage est triste, un peu sombre, je l'avoue, ce qui me paraît fort naturel dans sa situation. Regardez donc son front bas, signe d'un entêtement stupide, ses lèvres pâles et contractées, ses yeux baissés qui ne se lèvent jamais pour regarder en face. Je ne suis pas de votre avis, son front est large, carré, ce qui annonce l'intelligence, élevée même, et s'il vous paraît bas, c'est à cause des cheveux épais qui le recouvrent. Il est à regretter que le barbier de la prison ne lui ait pas coupé, s'ils doivent produire aux autres l'impression qu'ils font sur vous. Quant aux yeux baissés, aux lèvres pâles, c'est tout bonnement l'effet d'une émotion très légitime et qui ne prouve rien contre la moralité d'un homme. Pauvre Jem, ses cheveux noirs dont sa mère était si fière et qu'elle avait tant de fois caressés avec amour, devaient-ils donc lui être reprochés et tournés contre lui? On procédait à l'audition des témoins, les agents de police venaient d'être entendus et leur déposition paraissait évidente.
« Clair comme le jour, » dit un légiste en herbe à l'un de ses camarades. « Noir comme la nuit, veux-tu dire ?» répliqua en souriant le futur procureur.
« Jeanne Wilson, probablement une parente. »
« La mère du prévenu, assignée pour reconnaître le fusil qu'on a trouvé sur le lieu de l'assassinat. »«
Ah oui, je me rappelle. Pauvre femme, c'est assez dur. »
Jeanne Wilson avait à peine 50 ans, mais les infirmités, les chagrins, l'avaient tellement vieillie avant l'âge qu'on lui en donnait 70. Elle se tenait à la barre, chancelante et courbée, s'efforçant de contenir ses sanglots par amour pour son fils.
« Vous vous nommez Jeanne Wilson ?» lui demanda-t-on.
« Oui, monsieur. »«
Vous êtes la mère de l'accusé ?»«
Oui, monsieur. »
Et des larmes tremblèrent dans sa voix. « Le fusil que voilà, n'appartient-il pas à votre fils ? Rappelez-vous ce que vous avez dit à ce sujet. »
Elle saisit la barre afin de ne pas tomber, fit un violent effort, et se tournant vers le prévenu.
« Oh, Jem, lui dit-elle, que faut-il donc répondre ?
La vérité, ma mère, répliqua-t-il en jetant sur elle un regard plein de tendresse et de pitié.
Elle obéit, avec la docilité d'un enfant. Une profonde émotion parcourut l'auditoire, mais les jurés et les juges demeurèrent impassibles, tandis que l'avocat de Mr. Clarkson s'empressa, joyeux et triomphant, de faire ressortir tout ce que l'absence de Jem, précisément le soir où le meurtre avait été commis, rapprochait de la déposition qui venait d'être entendue, ajouta de concluant aux preuves que l'on avait déjà.
« Retirez-vous, John Wilson, » dit le président à la malheureuse femme.
Mais, ne pouvant plus se contenir, elle se tourna vers le juge, dont elle croyait que la vie de Jem dépendait.
« Je vous ai dit la vérité, milord, parce qu'il me l'a commandé, » s'écria-t-elle avec désespoir. « Mais je vous en prie, mon bon monsieur, que mes paroles ne soient pas contre lui, et qu'elle n'aille pas le faire pendre. Milord juge, il est innocent comme l'enfant qui va naître. Je suis sa mère, je l'ai nourri, et depuis le jour de sa naissance, il a réjoui mes yeux par sa vue, mon cœur par sa bonté. Vous pouvez me croire, moi qui l'ai jamais quitté. Mais ce n'est pas ces messieurs qu'il voit aujourd'hui pour la première fois qui peuvent le connaître et savoir ce qu'il a fait. Milord, il est si bon, que je me suis demandé bien souvent si le péché était en lui, et quand je murmurais, car j'ai mes moments d'humeur, je ne manquais pas de me dire. Ingrate que tu es, le Seigneur t'a donné Jem. N'est-ce pas une bénédiction plus grande que tous les biens de la terre? Dieu juge à propos de me punir, et pourtant, si vous me l'arrachiez, milord, moi qui n'aurai plus d'enfants, plus rien à aimer dans ce monde, je ne pourrai pas dire que la volonté de Dieu soit faite. Non, milord, non, je ne le pourrai jamais. »
Les huissiers l'entraînèrent avec douceur, et l'on continua d'interroger les témoins dont les réponses venaient accabler le pauvre Jem. C'était bien avec son fusil que le meurtre avait eu lieu. C'était bien lui qui, peu de jours auparavant, avait menacé la victime. Restait à savoir si la cause de ces menaces motivait suffisamment l'assassinat dont elles avaient été suivies. Et c'était pour cela que Mary Burton avait reçu l'assignation qui la menait comme témoin. Lorsque son nom retentit dans la salle, la foule, déjà très compacte, se pressa de nouveau pour s'approcher de la barre, afin de voir et d'entendre l'héroïne du drame qui se déroulait devant elle. Mr. Clarkson lui-même sentit battre son cœur en pensant qu'il allait connaître la funeste Hélène qui avait causé la mort de son fils. Un profond intérêt se mêlait malgré lui à l'horreur que lui inspirait cette jeune fille. Henry ne l'avait-il pas aimée, et ne partageait-elle pas sa douleur et ses regrets? Toutefois, en entendant les murmures flatteurs que faisait naître la beauté de Mary, beauté fatale qu'il maudissait, la haine triompha dans son âme de l'attendrissement qu'il venait d'éprouver, et la douleur de la jeune fille n'excitant plus chez lui qu'une jalousie amère. Il aurait voulu pouvoir lui interdire le droit de pleurer l'amant qu'elle regrettait, car personne ne doutait qu'elle n'eût préféré le beau gentleman, élégant et riche, à ce noir forgeron, triste et pauvre, qu'on voyait au banc des accusés. L'huissier trouva Mary dans la même attitude où Job l'avait entrevue 2 heures auparavant. Il fut obligé de s'approcher d'elle et de la toucher pour l'éveiller de sa stupeur. Elle tressaillit, se leva et le suivit d'un pas rapide dans la salle où la cour l'attendait. Au milieu de cette foule et de tous ces visages qui fixaient les yeux sur elle, son regard ne distingua que 2 personnes. Le juge qui prononcerait la sentence et le prisonnier qui peut-être allait mourir. Le soleil se jouait dans ses cheveux blonds, qui s'échappaient en masses épaisses de son chapeau trop petit pour les contenir, et de joyeux atomes folâtraient dans le rayon d'or qui l'entourait d'une auréole. Le vent avait changé depuis l'instant où ses yeux avaient quitté la girouette, mais elle n'en savait rien. Ceux qui mettent la beauté dans l'éclat et la fraîcheur du visage se trouvèrent désappointés, car elle était pâle et amaigrie, n'ayant de vivant que le regard où son âme agitée se reflétait tout entière. Mais les autres furent frappés du charme profond de ses traits délicats et purs, dont l'image se gravait dans leur mémoire d'une manière ineffaçable. Il m'a été dit par l'un de ceux qui n'ont pu l'oublier qu'elle ressemblait alors au portrait que le guide nous avait laissé de Beatrix Hennessy, ajoutant que ce souvenir lui revenait sans cesse comme le chant plein de tristesse de ces mélodies écoutées dans l'enfance et dont l'écho vibre toujours à votre oreille. Elle entendit vaguement les questions qui lui étaient adressées, y répondit comme en rêve, et rappelée à la réalité par la terreur subite dont elle fut saisie en pensant au secret terrible qu'elle renfermait dans son sein, elle fit un suprême effort pour reprendre possession d'elle-même et veiller sur ses moindres paroles. « Vous connaissiez les deux jeunes gens dont il est ici question, la victime et le prévenu. Dites-nous, s'il vous plaît, lequel vous préfériez, lequel, enfin, était l'amant favorisé ?» lui demandait au même instant le jeune avocat, enchanté d'avoir à examiner ce charmant témoin. Et qu'était-il pour oser lui faire cette question et la forcer devant tous à un aveu que la femme murmure, au milieu de ses larmes à l'oreille de celui qui seul doit l'entendre et connaître le secret de son cœur. Mary fixa pendant un instant son regard indigné sur l'impertinent légiste, et allait refuser de répondre quand elle vit les mains qui cachaient la figure de Jem s'abaisser tout à coup, et sur ce visage qu'elle découvrait, tant d'amour et de douleur, tant d'anxiété suppliante, que, n'hésitant plus, et surmontant toute honte.
« Milord, » dit-elle en s'adressant au juge, « on me demande lequel j'ai préféré des deux. Peut-être ai-je aimé autrefois Mr. Carson, je ne sais pas, je l'ai oublié. Mais alors même, tout mon cœur était à James Wilson, que je préférais à tout au monde, et que j'aime aujourd'hui plus que jamais, quoiqu'il ne l'ait pas su. Car voyez-vous, monsieur, je n'avais pas 13 ans, quand j'ai perdu ma mère, et je ne savais pas distinguer le bien du mal. J'étais folle et vaine, toujours prête à écouter les louanges qu'on donnait à ma figure. Et ce pauvre Mr. Carson me faisait des compliments, et me disait qu'il m'aimait. Alors j'ai cru qu'il m'épouserait. C'est un grand malheur pour une fille, monsieur, que de perdre sa mère si jeune. Je me suis mise à penser que je deviendrais une lady, que je serais riche, et ne connaîtrais plus la misère. Je ne savais pas combien j'en aimais un autre, lorsqu'un jour, que j'étais irritée de beaucoup de choses, car j'ai eu quelquefois bien des peines, James Wilson me demanda si je voulais être sa femme. Je lui répondis que non, et il me prit au mot, me quitta, et depuis lors, je ne l'ai pas même revu, malgré tout le désir que j'en avais, pour lui dire qu'il s'était trop pressé de me croire. Il n'avait pas fermé la porte que je savais, que je l'aimais plus que ma vie, dit-elle en baissant la voix. Ainsi donc, je peux répondre à ce gentleman qui me l'a demandé. Mr. Carson me flattait, et ses flatteries me plaisaient. Mais James Wilson...
Elle se couvrit la figure de ses mains pour cacher sa rougeur qui teignit de rose le bout de ses doigts tremblants. Il y eut un instant de silence, mais cette déposition, qui augmentait la sympathie de l'auditoire pour l'accusé, confirmait en même temps les préventions qu'on élevait contre lui relativement au crime dont il était soupçonné.
Vous avez néanmoins revu Mr. Carson après le refus que vous aviez exprimé à l'accusé, reprit l'avocat.
Oui, souvent.
Vous lui avez parlé depuis cette époque ?
Une seule fois.
Lui avez-vous dit qu'il avait un rival ?
Non, monsieur. Je n'ai jamais nommé James à Mr. Carson. Jamais.
Rappelez-vous, sinon les paroles, du moins la substance de ce dernier entretien avec Mr. Carson.
Je lui ai dit que je ne l'aimais pas, que je ne voulais plus ni lui parler ni le voir, et finalement je me sauvais pendant qu'il tâchait de me persuader son amour.
Et vous ne lui avez jamais reparlé depuis ?
Jamais.
Avez-vous confié au prévenu les attentions qu'avait pour vous Mr. Carson, les rapports qui existaient entre vous et ce gentleman ? N'avez-vous pas excité sa jalousie en vous vantant d'avoir gagné l'attention d'un homme dont le rang et la fortune étaient au-dessus de votre position ?
Jamais, jamais.
Rappelez-vous que vous avez juré de ne dire que la vérité, mais la vérité tout entière. Vous doutiez-vous que l'accusé connaissait vos relations avec Mr. Carson ?
Non, monsieur. Je n'ai su la querelle qu'ils avaient eue ensemble qu'en apprenant la mort du gentleman, et je ne peux pas deviner, même aujourd'hui, comment Jem a pu connaître la conduite de Mr. Carson envers moi. Est-ce que je ne peux pas m'en aller ?
Ajouta-t-elle en se sentant subitement défaillir. Sa déposition était aussi complète que le désirait l'accusation. Dès lors, elle pouvait se retirer, et le président le lui accorda immédiatement. Les paroles qu'elle avait dites aggravaient les charges qui pesaient contre Jem. Néanmoins, le prévenu relevait la tête, et retrouvant dans l'aveu de la jeune fille le sentiment de sa propre dignité, sa physionomie exprimait une résolution pleine de calme qui ne manquait pas de noblesse. Toutefois, il paraissait rêver. Job avait amené Jane Wilson dans la cour
et l'avait fait asseoir sur les marches du perron, où il s'efforçait d'apaiser les sanglots de la pauvre mère. Et sans Mistress Sturgis, la femme du batelier, qui s'avança pour soutenir Mary au moment où celle-ci quittait la barre, personne n'eut pris soin de la jeune fille, qui refusa néanmoins de s'éloigner et de sortir de la salle, ainsi que l'y engageait sa compagne.
« Non, non, disait-elle, je veux rester ici, et savoir s'ils le condamneront à mourir. »
« Oh, que non, soyez tranquille, répondait la brave femme. « La girouette a tourné. Venez dehors. Vous avez besoin d'air. Vous étiez toute rouge, et maintenant vous pâlissez. »
Mary saisit la balustrade pour se maintenir debout, et refusa de nouveau de quitter la salle. L'avocat du prévenu, fort embarrassé en présence de la gravité des charges articulées contre son client et de la faiblesse de ses moyens de défense, ne se pressait nullement de prendre la parole. Il avait renoncé, quant à présent, au contre-examen des témoins entendus, se réservant de les rappeler si toutefois il le trouvait urgent, et attendait, sans trop l'espérer, quelque incident favorable à sa cause. Il s'était assis et s'appuyait nonchalamment à son banc, puisant dans sa tabatière, avec un laisser-aller plein de mépris, lorsque Mr. Bridgenorth l'engagea définitivement à commencer les plaidoiries. Job était entré dans la salle, et cherchant Mary Burton, il avait fini par se rapprocher d'elle.
« Je ne veux pas devenir folle, »
murmura la jeune fille, à l'oreille du vieux fileur.
« Je ne le veux pas. On dit la vérité quand on est fou, et je ne veux pas la dire. J'ai toujours été menteuse, rappelez-vous-le, Job Legh, et ce que je dirais serait un mensonge. »
Puis, se détournant tout à coup, surprise elle-même des paroles qu'elle laissait échapper, elle tendit le bras en s'écriant.
« Oh, Jem, tu es sauvée, mais je suis folle. »
Toute l'attention de l'auditoire était captivée par un marin, qui, repoussant énergiquement huissier et policeman, s'ouvrait un passage dans la foule et s'avançait vers le banc des témoins sans se soucier des obstacles qu'il rencontrait devant lui. L'avocat de l'accusé reprit courage, moins en pensant au salut de son client qu'à l'effet oratoire qu'il pourrait tirer de la circonstance. Un brave marin, voguant au sein des ondes, revient au rivage en dépit de la tempête, ramené par la noble audace d'une jeune fille. Et plus loin, quel danger n'offrent pas ces jugements précipités qui font dépendre la vie d'un innocent, etc., etc. Mais, tandis que l'éloquent défenseur se livre intérieurement à toute la fougue d'une improvisation chaleureuse, et que l'accusateur, au contraire, se prépare à faire ressortir le parjure du faux témoin qui s'avance, car il est d'usage de tenir pour mensongère toute opinion contraire à celle que l'avocat est payé pour soutenir et de jeter à la face de celui qui l'a produit les mots d'imposteur, d'infâme, de calomniateur odieux, perdant à jamais son âme immortelle par la plus vile perfidie. Une gracieuse parole qu'on excuserait peut-être dans la bouche du plaignant, mais qui semblait au moins étrange dans celle d'un orateur de louange. Tandis que ces deux illustres jouteurs aiguisent réciproquement leurs armes, Will, parvenu à la barre, raconte d'une voix ferme les faits que nous connaissons déjà. Comment, n'ayant pas de quoi payer le chemin de fer pour se rendre à Liverpool, afin d'aller ensuite à l'île de Man, il avait fait la route à pied accompagné du prévenu, son cousin, jusqu'à Hollings Green, précisément à l'heure où se commettait le meurtre, dont on recherchait le coupable. Il fut si net et si clair dans sa déposition, si simple et si touchant dans le court exposé, qu'il fit de son retour au port dans le bateau du pilote et de l'horrible anxiété qu'il avait eue pendant cette traversée où le vent avait presque toujours été contraire, que le jury se sentit ébranlé dans sa conviction, bien arrêté jusqu'alors de la culpabilité de Jem. Et maintenant que vous avez répété à la cour et sans broncher la convaincante histoire qui justifie l'accusé, votre parent, nous direz-vous, mon brave ami, demanda l'avocat de la partie adverse, combien vous avez reçu de belles et bonnes monnaies d'Angleterre pour revenir d'un vaisseau quelconque ou de tout autre lieu aussi honorable dans le but de nous réciter le conte si touchant que vous venez de faire entendre à l'honneur, je dois le dire, de celui qui vous l'a enseigné. Seulement, rappelez-vous bien que vous l'avez rapporté comme vrai et sous la foi du serment. Will resta quelques minutes avant de saisir le sens des paroles de l'avocat, mais quand il en eut compris la signification, « Voulez-vous dire au juré et au juge, demanda-t-il à son tour au légiste, combien d'argent vous avez reçu pour
pour votre insolence envers un homme qui dit la vérité et qui refuserait de mentir ou d'injurier qui que ce soit pour la plus grosse somme que jamais avocat ait gagné à faire son métier d'insulteur. Répondrez-vous, monsieur. Quant à moi, milord juge, je suis prêt à renouveler mon serment autant de fois que vous le voudrez pour attester de nouveau ce que j'ai dit au juré. O'Brien, le pilote avec lequel je suis revenu, est là, dans la salle. Plairait-il à quelques milords portant perruque de lui demander où il m'a pris et ce qu'il peut dire de moi ? C'était une heureuse idée que le défenseur accueillit avec empressement et qui ne manqua pas de produire tous les faits que Will en attendait. O'Brien était connu. Pilote accrédité près de Trinity House, nul ne soupçonnait sa moralité bien établie. Et lorsqu'il eut par son témoignage confirmé celui de Will, Mr. Carson comprit que le meurtrier de son enfant échapperait au cerf de la justice et foulerait encore dans sa liberté et dans sa force cette terre d'où son fils avait disparu à jamais. Jem s'était de nouveau caché le visage pour dérober au curieux l'émotion qu'il ne pouvait réprimer. Job s'interrompit subitement au milieu de la conversation animée qu'il avait avec Mr. Bridgenorth. Charlie même devint sérieux, car les jurés étaient rentrés dans la salle et y avaient repris leur place. La terrible question venait de leur être posée. Peu convaincu de l'innocence de l'accusé, ébranlé pourtant par la déposition de Will, effrayé surtout du châtiment qui attendait le prévenu s'il était condamné, les jurés apportaient un verdict d'acquittement et les mots « non coupable » vibrèrent dans l'auditoire ému. Un profond silence accueillit cette déclaration, puis les entretiens particuliers recommencèrent, et, dans chaque groupe, la décision du jury fut discutée à voix basse. Jem restait immobile, étourdi par la rapidité des événements qui s'étaient succédés. Il était venu s'asseoir au banc des accusés, ne doutant pas qu'il ne dût être condamné à mort, et désirant à peine qu'il en fût autrement dans la situation où il était placé. Mary, qui ne l'aimait pas autrefois, devait maintenant le haïr, dès lors que lui importait de vivre. Mais voilà qu'au milieu de cette désolation profonde, l'aveu de la jeune fille venait briller tout à coup et faire rayonner l'avenir au moment où peut-être l'avenir n'existait plus pour lui. Elle l'aimait, et sa vie, maintenant pleine de promesses, ne tenait plus qu'à un fil. Cette vie radieuse qu'un mot pouvait éteindre. Il se demandait si la certitude d'être aimé adoucirait sa dernière heure, et le mirage des joies que lui réservait une existence partagée avec elle venait se placer entre lui et la mort. L'apparition de Will n'avait fait qu'augmenter son trouble, et le verdict du jury, auquel son cœur n'osait pas croire, l'avait frappé de vertige. Quelqu'un le tirait par l'habit. Il se retourna, c'était Job. De grosses larmes couvraient les joues du vieillard, qui ne put que lui serrer la main sans rien dire.
Allons, hors d'ici. Vous n'en êtes pas fâché, je suppose, s'écria le geôlier, en introduisant un prisonnier d'une pâleur livide et dont le regard exprimait la terreur.
Job s'éloigna immédiatement, et Jem le suivit sans savoir ce qu'il faisait. La foule, en s'écoulant, se détournait de lui. Chacun cherchait à préserver ses vêtements du contact de cet homme sur qui planait toujours l'accusation que le verdict n'avait pas effacée. Toutefois, il était libre et entouré de quelques amis fidèles. Job et Will se disputaient sa main, tandis que Ben Sturgis s'efforçait de témoigner l'intérêt qu'il prenait à cette scène en grondant Charlie Jones et en cherchant à l'empêcher de courir sur les mains autour du bon ami de sa protégée, pour le fêter à sa manière. Quant à Jem, il éprouvait le besoin de se recueillir, de contempler en silence les visions nouvelles qui se pressaient devant ses yeux, et il eût donné beaucoup pour une heure de solitude, même au fond de la cellule d'où il venait de sortir.
« Où est-elle ? » murmura-t-il d'une voix étouffée par l'émotion.
Ils le conduisirent auprès de sa mère, qui, depuis son acquittement, n'avait cessé de rire, de pleurer, de parler tour à tour, et qui se jeta dans ses bras dès qu'elle l'eut aperçu, le couvrant de larmes et de baisers. Il lui rendit ses caresses, et regardant autour de lui, sans y voir la personne qu'il cherchait.
« Où est-elle ? »
répéta-t-il en tremblant.